Voix nue. Cette semaine, Leïla Djitli rencontre Jean-Paul Gaultier. Ce soir, les falbalas de Jean-Paul Gaultier. Le tissu, c'est comme une deuxième peau.
Bonsoir Jean-Paul Gaultier.
Bonsoir.
Nous sommes toujours en votre compagnie dans ce magnifique immeuble de la rue Saint-Martin. Alors dans l'épisode précédent, on est reparti du côté d'Arcueil, Arcueil-la-Rouge, la ville dans laquelle vous avez grandi. Et vous nous avez raconté dans quel univers vous avez commencé à fabriquer, à inventer ce rêve de mode hein, qui vous poursuit encore aujourd'hui. Et alors j'ai trouvé dans un roman photo, et ça je trouve que ça vous ressemble bien parce que vous avez édité un roman photo, je crois que dans les années 90, c'est ça et,
Oui.
Le À nous deux.
Oui, 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 tout à fait, début 90. Ouais,
début
ouais, ouais.
90,
ah, oui, tout
à
début,
nous deux.
Voilà. Tout début, c'est vraiment 90 pile, je crois. Ouais. À nous deux, la mode.
À nous deux, la mode, avec une magnifique couverture.
De Pierre et Gilles.
Voilà, ça c'est vraiment une rencontre importante.
Ah oui, 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 formidable. Ben, eux, je les ai connus au Palace, évidemment, à la grande époque du Palace, c'est-à-dire au début du Palace, où il y avait Edwige, la reine des punks, avec sa bande de punkettes et de petits punks qui étaient Pierre et Gilles et toute une bande comme ça. Il y avait aussi le Boutin et tout, ouais, tous ces gens-là.
Se distinguaient complètement. Mais on reviendra dans les...
C'est un peu plus tard.
Plus tard, les ça, années 80, ça a été aussi exactement. Des années extraordinaires pour la mode et pour beaucoup de choses.
Tout à fait.
Et dans ce roman photo, donc vous êtes absolument magnifique sur cette couverture.
Ben, eux, c'est merveilleux parce que je vais vous dire, ils vous font plus jeune que vous n'avez jamais été.
Ah bon?
C'est-à-dire que c'est un degré, filtres. Le degré.
Il y avait déjà des filtres là sur cette photo parce que...
Ah non,
faut
c'est-à-dire qu'ils retouchent après. Ils retouchent la main, ah. il peint.
Cette photo, vous me la décrivez, la photo de,
écoutez,
de la couverture.
Alors, c'est moi un peu idéalisé, on va dire même très idéalisé, c'est-à-dire avec le cheveu blond platine comme j'avais donc fin 80 et début 90, à la brosse, avec la marinière, tenant dans la main un bouquet de marguerites et le fond derrière est un ciel bleu, d'un très beau bleu, entouré, parsemé de marguerites qui m'encadrent, en fin de compte.
C'est absolument magnifique. Et alors, ce roman photo, ça commence par un texte qui s'appelle « La vocation ». Et j'aime beaucoup ce texte. Et ça commence comme ça. « Tous écoutez cette complainte d'un garçon blond que l'on remarque entre Tokyo et Central Park et dont les robes désappointent. C'est l'odyssée de la vêture qui surgit des faubourgs d'Arcueil, l'existence tout en clin d'œil du champion des entournures. Dès le berceau, il peint son ours et sa grand-mère l'encourage, tandis que les profs enragent, lui, dans la fripe, il prend sa source. Des souvenirs, il en attend, et ses images se composent quand la mémoire prend la pose, comme un vieux film en noir et blanc. » C'est
formidable.
C'est magnifique.
Il est très connu en vérité. Il doit être écrit, je pense. C'est les paroles, je ne sais plus sous quel titre c'était fait, parce qu'en fin de compte, c'était lui qui avait
fait. Patrick Rambeau.
Voilà,
oui, Patrick Rambeau, bien sûr.
Lui qui est un
immense
grand
écrivain.
Voilà. Ben, décidément, écoutez, là, il y en a donc un qui a mis en. Pas en page, mais tout au moins qui a écrit ce roman photo.
Oui.
Et puis il y en a un autre qui est dedans, c'est Jean Telet aussi, puisqu'il
Jean,
fait partie.
Absolument.
Voilà.
Voilà. Donc, en fait, ce qui serait bien là aujourd'hui, maintenant, c'est de revenir un peu sur la vocation à l'époque de vos premiers dessins en classe.
Les premiers dessins en classe. Alors,
parce que c'est... l'école, c'était pas une grande histoire d'amour. Hein,
alors voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'à l'école, franchement, j'étais plutôt rejeté. Pas seulement par les professeurs qui, en fin de compte, se rendaient compte quand même que j'étais pas un si bon élève, si brillant que ça. Au bout de 2 mois et tout, les premiers mois, je faisais beaucoup d'efforts pour comment écrire, etc. et tout. Puis après,
ça
m'ennuyait fortement.
Vrai ouais.
Et je me souviens que le premier choc est là où j'ai commencé vraiment à dessiner. Je crois que je dessinais déjà avant. Et ensuite, je me suis mis à dessiner ce que j'avais vu à la télé, c'est-à-dire les actrices. Mais un soir, la première des Folies Bergères, ils ont montré un extrait avec Monsieur Derval, qui était le directeur des Folies Bergères, et son épouse. Et j'ai vu ces deux femmes qui descendaient des cintres avec des plumes, avec des strass, avec des résilles et tout. Et j'ai trouvé ça magnifique. En plus, quand on est gamin, on voit absolument rien de ni du sexuel, ni de choses comme ça. On voit quand même simplement une espèce de costume féerique avec quelqu'un d'éblouissant et qui fait rêver,
c'est
quoi.
Noël.
Voilà, exactement, c'est ça. C'est presque... Oui, voilà, c'est des mamans Noël. Un peu dénudées, mais c'est des mamans Noël quand même. Et donc, j'ai pu voir ça grâce à ma grand-mère. Le lendemain, à l'école, je dessine ça. Et l'institutrice, Madame Moulinou, me surprend. En train de dessiner, de faire le dessin.
Quoi, des femmes nues? Vous avez dessiné
J'ai dessiné la femme, oui, qu'on appelle nue, mais qui était toujours avec trois plumes sur les fesses, oui. Et puis sur la tête, et puis d'accord. Des bijoux qui pendent, et des barésilles, et peut-être un pompon sur les seins. Donc j'ai dessiné ça. Et elle voit mon dessin, elle veut me punir, elle me fait lever d'abord, elle me donne des coups de règle sur les doigts, et après, elle m'épingle mon dessin dans le dos pour me faire faire le tour des classes. Le tour des classes. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que au lieu de m'humilier, c'était le but, quoi, et ben ça m'a fait du bien. Ça m'a fait un bien énorme, parce que d'un seul coup, j'ai vu des sourires. J'ai vu d'un seul coup les gamins qui me regardaient, les autres, et qui étaient comme ça, fais-moi un dessin, qui m'ont demandé après de leur faire un dessin. Et si vous voulez, ça m'a permis de voir ben, à quoi je pouvais servir, à comment j'étais accepté comme un passeport qui me laissait ouvrir les portes de l'avenir, les portes d'un avenir heureux où les gens me sourient et me demandent des choses. Donc c'est là que j'ai commencé vraiment à dessiner, alors là, à plus pouvoir m'arrêter. Et peu à peu, ce dessin de Folie Bergère, mon ours qui est devenu meneuse de revue et tout, j'avais mis le plumeau sur la tête et tout, de ma grand-mère et tout, et j'avais mis accroché une barquette de fraises, j'avais enlevé les fraises, et c'était ça pour descendre et tout, pour faire pareil, la descente et
oui,
tout.
Comme, ah oui.
Et d'un seul coup, j'avais accroché ça au lustre de ma grand-mère, de sa chambre, et d'un seul coup, patatrap, c'est tombé sur un vase, le vase s'est répandu, elle m'a pas du tout disputé et tout, et puis j'ai dit, oh ben c'est dommage, je peux plus te faire le final maintenant que je devais jeter des plumes. C'était ça. Mais c'était tout vu très bien. Enfin, tout ça fait que j'ai persisté et continué à dessiner. Et puis, j'ai dessiné peu à peu. J'ai dessiné des femmes quand même. C'était donc des actrices. Et puis, un jour, j'ai vu Falbala. Ça, c'était la suite. Ça, c'était l'autre changement. C'est-à-dire que c'était plus le théâtre. C'est là, en voyant le film avec Micheline Prel. Et je me suis dit, ben, c'est ça. Là, j'avais 13 ans. Je veux faire ça, c'est ce métier-là que je veux faire. Enfin, c'est ce métier, je veux être ce monsieur, en fin de compte.
On va revenir sur Falbala, mais je voudrais que vous reveniez juste un petit peu. Oui. C'est vrai, j'insiste un peu parce que j'ai l'impression que je me sens bien dans l'appartement de votre grand-mère avec
oui.
vous. Là, quand... Non, mais c'est vrai que c'est un endroit où on sent que c'était déjà un théâtre de quelque chose. Mais sur cette petite ours...
Oui. Nana.
C'est Nana, voilà.
Nana.
Voilà. Vous l'avez gardé
oui,
longtemps.
Que je l'ai eu fétiche. Non seulement je lui ai fait l'opération avec les synchroniques pour qu'il devienne... Mm-hmm. Donc transgenre, ours transgenre, et devenir une femme, entre guillemets. Mais après, je le faisais subir tout ce qui se passait à l'époque. C'est-à-dire que, par exemple, il y avait le mariage, je me souviens, de Baudouin de Belgique avec Fabiola, et je l'ai habillée en robe de mariée le jour du mariage. Donc je lui ai fait une robe qui n'était pas du tout comme la robe de Balenciaga, très belle et tout, qui était une espèce, je crois que j'avais pris un apron de ma grand-mère, j'avais coupé au milieu et lui avait fait une jupe comme ça. Mais bon, c'est tout. Enfin, en tout cas, j'avais inventé une jupe en biais sans le savoir comment le faire au départ. Hein. J'avais... utilisé comme Monsieur Jourdain avec la prose, ben là je faisais du biais sans m'en rendre compte, simplement en prenant un rond. Et donc voilà, il y avait donc Nana. Ah, je voyais aussi à la télévision, il y a d'autres choses que je voyais. Quand même, c'était une émission assez drôle où une femme sur une table, c'était, je me souviens, très gris et très noir et gris, très sombre comme image. Et on la voyait en train de plier du tissu et découper après comment faire un patronage, comment se faire une robe. Ça, je trouvais ça assez amusant, je trouvais ça drôle, je trouvais ça assez comique comme effet et tout. Et du coup, c'est peut-être ça, peut-être que j'avais vu. Alors moi, au lieu de prendre et de couper en rond, ben, j'avais vu le rond d'une apron et j'ai fait un trou au milieu et ça y est, c'était fait.
Et vous vous souvenez, il y avait des magazines, Modes et Travaux, il y avait des patrons.
Alors, l'écho de la mode aussi, je me souviens.
L'écho de la mode, voilà.
L'écho de la mode, ça lisait ma mère un petit peu et ma grand-mère. Mais en vérité, quand c'était décidé... que ce serait de la mode que je voulais faire. Je me souviens qu'après j'allais voler un petit peu des magazines parce que j'avais pas d'argent de poche à vrai dire.
Arcueil,
et donc voilà et j'allais les pauvres, je leur ai dit après, je leur ai avoué des années après. Et ceux qui étaient propriétaires, je me souviens, c'était assez drôle. Une chose, la petite anecdote quand même. Donc à Arcueil, ça c'était juste à côté. C'était le, comment appelle-t-on ça, celui qui vend les magazines.
C'est le presse, papeterie.
La papeterie qui vendait aussi.
Ou marchand de couleurs à l'époque
aussi. Voilà, qui vendait vraiment, c'était un couple et tout assez drôle. Et je me souviens qu'il y avait, bon, dedans évidemment, en effet, les cahiers, tout ce qu'on pouvait acheter, mais il y avait des livres aussi. Et à un moment, j'étais venu pour acheter un livre, acheter les livres pour la classe, mais j'en avais profité. Là, j'avais de l'argent parce que c'était les livres de classe. Et j'avais acheté un livre en plus, c'était L'amant de Lady Chatterley. Et je me souviens, ça c'était un petit peu plus tard, et je me souviens que comment, d'un seul coup, s'était mis à crier, l'amant de Lady Chatterley, toi tu vas lire ça, et ben bravo, alors et tout. Alors moi j'étais, ah mon Dieu, il crie tout fort et tout.
Et oui, bon. C'était le côté amant qui vous a tapé dans l'oreille.
Non, je savais de quoi ça parlait.
Ça
c'était au moment où je commençais sûrement à avoir des questions par rapport sur la sexualité et tout. Ouais. Et j'avais, je sais pas où j'avais dû entendre à la télévision qu'on en parlait et tout. Oui. Et du coup, et ben voilà, oui, donc ça, je savais. Parce que c'était pas le directeur qui nous avait conseillé de lire ça. Non, pas Monsieur Tape.
Mais alors justement, les petits commerces là, d'Arcueil, il y avait aussi une mercerie que vous fréquentiez beaucoup avec la grand-mère, non?
Oui, c'est ça. Il y avait d'ailleurs une personne, qui s'appelait Mademoiselle Yvonne, qui avait une mercerie et qui avait plein de rubans et tout. Et cette personne, à un moment, elle était obligée de la laisser parce qu'elle pouvait plus acheter tout ce qu'elle avait. Il y avait plein de choses. Il y avait des rubans, il y avait des tas de choses qui me faisaient rêver. Et donc, ça, j'ai un souvenir très vague. Mais je sais que mon grand-père, il a fait de la blouse tablier, des tabliers en cuir. Et elle l'aidait pour faire ce genre de choses-là. D'accord. Et peu à peu, après, ma grand-mère lui a demandé de l'aider pour faire peut-être le ménage un petit peu, pour l'aider, parce que comme elle était quand même de moins en moins vaillante. Mmh. Mais elle était déjà très âgée. Et elle était absolument adorable. Et alors, donc, elle venait après aussi un petit peu à aider ma mère pour le ménage et tout. Et puis, aider un peu à s'occuper de moi.
Un peu. Mais... quelqu'un m'a dit que quand vous alliez aussi dans cette mercerie, parce que vous étiez un gamin assez farceur finalement, assez facétieux, puisque quelqu'un m'a dit, je vous dirai pas qui, vous a balancé en disant que vous piquiez parfois des boutons mettiez dans la poche de votre grand-mère pour pas vous faire prendre. C'est vrai ou pas?
Si, tout à fait. Si. Oui. Non, mais il y a peut-être des souvenirs qu'on occulte. J'ai pas occulté le fait de vendre, de voler les magazines. Mais par contre, ça c'est vrai, tout à fait vrai. Très, très vrai. Oui. Parce que je trouvais ça joli et tout. Et voilà. Oui, j'ai eu un côté un petit peu chapardeur comme ça. C'est vrai, pendant une période, et puis le mettre à ma grand-mère. Oui. Ou aussi une autre chose que j'ai fait qui était pire, c'était ma grand-mère qui était assise avec des amis quelquefois sur le banc et tout, où je m'ennuyais un petit peu, et ben elle était avec une amie à elle et tout, et ben je m'arrangeais à épingler avec les grandes épingles qu'elle avait sans qu'elle le sente le bas de la jupe, je devais passer par en dessous le bas de leur jupe et tout, pour qu'après quand elle se levait, se disait au revoir et s'en allait, clac, ça faisait des petits voilà le genre de plaisanterie que je faisais.
Voilà.
Et puis j'étais quand même du genre assez bébête, du genre quand je voyais par exemple quand je faisais un trou dans le rideau de ma grand-mère, je sais pas, en manipulant mal le fauteuil ou en ouvrant la fenêtre et puis ça se prenait dedans et du coup ça arrachait, et ben après je découpais un gros morceau et tout pour que ça ne se voit pas. Donc je découpais et je m'en servais pour faire quelque chose à mon ours, évidemment. De la partie du plus. Enfin voilà.
Tout ce que vous racontez, ça fait penser à l'univers aussi de Truffaut, des 400 coups et des choses comme ça. Hein. C'est vraiment les films en noir et blanc. Et on imagine aussi que cette grand-mère, elle vous a quand même, comme donner sa bénédiction, puisque...
Tout à fait. Elle l'a tout à fait fait. Ouais. Comme par hasard, des années plus tard, quand même, où là, je savais que je voulais faire de la mode et tout, elle m'a une fois donné un livre dans lequel il s'agissait de quelqu'un qui était homosexuel, et donc de ses rapports avec d'autres hommes, et donc je comprenais pas vraiment ce qui se passait, pour être très sincère, mais je sais une chose et qui m'est restée gravée, c'est qu'elle m'a dit, tu vois, ils sont malades. Mais pour elle, c'était pas quelque chose de négatif, être malade. Parce que quand je l'ai raconté, ça, je vois les gens aussitôt, oh, comment dire qu'ils sont malades? Je suis tout à fait d'accord. Je pense pas que les homosexuels sont spécialement malades. Je pense pas du tout que c'est quelque chose comme
mais
ça.
Mais se remettre à cette époque, en plus,
elle, le terme de malade ne voulait pas dire cela. C'était plutôt genre, elle, comme elle était infirmière, elle s'occupait des malades. Mmh. Elle les aidait en quelque sorte, elle les soignait. Donc c'était plutôt montrer qu'elle avait du soin. Donc ces gens qui sont malades, moi je suis infirmière et je les soigne. Donc du coup, sois gentil avec eux parce que tu sais, ils sont malades. Comme pour me dire, tu vois, si tu les connais, si tu, toi, deviens toi-même... comme eux, et ben sache que moi aussi je m'occupe toujours de toi, tu seras toujours mon petit-fils, etc. C'était un message subliminal, mais c'était ça.
C'est formidable comme message.
C'est quand même incroyable. C'était la première à faire ça, parce qu'après j'ai eu d'autres personnes qui m'ont sans le vouloir d'ailleurs, parce que je ne les connaissais pas du tout et je les ai connus que beaucoup plus tard. Mais par exemple, le fait d'apprendre que Pierre Berger et Yves Saint-Laurent, mais ça c'était fin 60 hein, quand même, j'étais pas encore... Déjà, j'avais entendu dire que Yves Saint-Laurent et Pierre Berger vivaient ensemble. Et c'était pas par des personnes homosexuelles que j'entendais dire ça. Ça se disait déjà. Donc ça veut dire que déjà, ils s'affichaient en tant que, dans la société...
Comme un couple. Ouais.
Voilà, comme un couple. Donc ça m'a beaucoup aidé à accepter. Et puis en fin de compte, je me suis dit, j'ai lu aussi, alors je ne sais pas comment je l'ai trouvé celui-là, mais un livre que personne, paraît-il, ne retrouve, un livre sur Christian Dior, où le fait, disant qu'il est homosexuel. Il paraît que ça ne se trouve plus du tout maintenant. Un livre où c'est dit et tout, comme quoi il était homosexuel. Donc tout ça est normal, puisque les autres le sont et tout. Donc comme si, bien qu'à une époque, quand même, à un moment, je sais que j'avais vu comme film Roméo et Juliette, comment de Zeffirelli, je suis allé le voir 25 fois, mais carrément. Alors là, avec l'argent que je dérobais à ma grand-mère, comme argent de poche et tout, c'était à ma grand-mère, là, après que je le prenais. Et je suis allé voir le film, je vivais à l'heure de Roméo et Juliette, mais je me souviens m'être réveillé en ayant rêvé de Juliette, mais aussi de Roméo.
Des deux. Ah ouais.
Des deux à la fois. Et après, je voulais avoir la même coupe de cheveux que Roméo, et voilà. Et vraiment, c'était assez... Donc à l'époque, c'était quand même assez trouble pour moi. C'est-à-dire trouble. Donc je me sentais... attiré par les femmes, mais aussi par les hommes, ou par les jeunes femmes et par les jeunes hommes qui avaient mon âge.
Et donc au lycée, c'était déjà quelque chose qui était perceptible par les autres, vous pensez ?
Je ne sais pas, non, je crois pas. Je crois qu'on me disait peut-être, quand j'étais dans le Lot-et-Garonne chez mes cousins, ah oui, la fille manquait, etc. Et je détestais qu'on me dise ça parce que je ne me sentais pas du tout comme une fille. Donc je sais que j'étais furax, je redoutais le moment où on allait me dire ça parce que je sentais, ah oui, j'avais l'appréhension que ça y est, ça allait venir et tout. Et à partir du moment, je dois reconnaître, à partir du moment où j'ai dessiné, eh ben c'était, en effet, on ne parlait plus de ça, c'était j'en fais moins un dessin. C'est drôle, hein.
Et pour revenir à vos parents, quand ils ont vu que vous commenciez à vous intéresser plus à la mode, et que c'était un peu la voie que vous alliez choisir professionnelle, ils ont accepté facilement que vous preniez cette voie ?
Oui. Mais il y avait simplement le fait, est-ce que c'est un métier stable ? Est-ce que c'est un métier... Voilà. En plus, on avait la chance d'avoir un voisin, un ancien voisin, puisqu'on était au HLM, mais un ancien voisin qui, lui, était peintre. Et sa femme faisait des illustrations, je crois, pour le Petit Écho de la Mode et tout. Enfin, ils étaient aussi très modestes et tout. Et lui, comme peintre, je crois qu'il n'a jamais vraiment percé. Alors, je ne sais pas s'il avait une autre activité. En tous les cas, je ne pense pas qu'il puisse en vivre. Il s'appelait Monsieur Montez, qui était un Espagnol. Et je me souviens que mes parents lui avaient montré mes croquis. Il a dit, oh, mais c'est bien, il faut que... Mon ex, enfin c'était son ex-épouse, qui elle est illustratrice, qu'elle le voit, qu'elle voit ses dessins. Mais ça, je devais avoir 15 ans, 16 ans, donc j'étais donc dans le HLM Émile Raspail et lui toujours au rue Berthollet. Et donc, je me souviens que j'étais venu donc chez lui pour le montrer à son épouse, qui elle avait trouvé ça très bien et qui m'avait demandé de lui faire des croquis, des dessins pour des enfants. Parce qu'elle faisait, je crois qu'elle devait faire une collection pour enfants et elle m'avait payé, mais trois fois rien. Mais c'était extraordinaire, c'était, puisque j'avais pas d'argent de poche, j'avais quand même eu cet argent-là. Et donc, elle m'avait employé pour la première fois. Et après, elle avait dit, mais ces croquis, oui, je crois vraiment il faut que continue et je vais le montrer d'ailleurs ces croquis. Je connais une première d'atelier qui est chez Dior et donc ça a été mon premier refus chez Dior d'ailleurs. Il y en a eu d'autres et donc elle a montré une partie de mes croquis qui l'avait montré à Marc Bohan, qui avait dit qu'il n'avait pas besoin d'assistant et tout et qu'il fallait que je continue à travailler encore et encore et encore. Bon, ça voulait dire non. Jusqu'à arriver au moment où j'ai fait... Alors là, je faisais de plus en plus des collections. Mais alors vraiment, je faisais des collections entières. J'ai pas fait d'école de mode, mais mon école, ça a été de lire, de regarder les magazines, peu à peu, et de regarder quand il y avait les comptes rendus de la haute couture dans les journaux.
Ah, c'était les critiques.
Les journaux, les quotidiens. Ah, oui. Les quotidiens, avec cette collection très parisienne. Alors je disais, ah, collection parisienne. Donc le côté parisien.
Mais vous avez pas 16-17 ans, là, 18 ans.
Ouais, ouais 16-17 ans. Ouais, voilà, c'est quand 17, j'ai eu 16-17. Ah, ça, c'est parisien. Donc voilà. Oui. Modèle choc pour Pierre Cardin. Alors, parce qu'il faisait des modèles chocs et tout. Alors, donc, il faut des modèles chocs aussi. Vous voyez, c'est comme si j'apprenais comme ça. Et tout ce que je lisais, c'était de l'eau bénite, quoi. C'était vraiment, mais je croyais que c'était la Bible. C'était ma Bible et je remettais pas en question. Et peu à peu, par la suite, à force de les voir, il y avait des choses que je préférais, des certains couturiers que j'aimais bien, certains que j'aimais moins, certains que je trouvais très intéressants. Notamment, il y avait Cardin que j'adorais, il y avait Saint-Laurent que j'adorais aussi parce que lui, très différent. C'est-à-dire que Cardin, il était plus dans la mouvance de la modernité des années 60, hein, un peu comme Courrèges, que je trouvais très bien, mais courais-je, alors au début j'adorais tout le monde, hein, mais après peu à peu, donc je voyais, courais-je, après je trouvais qu'il faisait trop des accessoires et tout, mais que c'était pas aussi beau que la pureté qu'il a fait au départ. Mais enfin, bon, je commençais à avoir mes petits raisonnements à moi et tout.
Oui, il était très passionné, alors.
Ah oui, et puis je lisais. Ah oui, oui, totalement. Ah oui. Ça, je dois dire, j'étais à fond dedans. Ah. C'est-à-dire que je lisais tout et les articles. Et notamment, j'ai même volé, donc, des, je crois, comment ça s'appelait? Jardin des modes, où il y avait les comptes rendus, le spécial haute couture. Alors, c'était ça. Et puis, il montrait à la télé aussi le spécial haute couture fait par Jean-Christophe Alberti. Où là, c'était fabuleux parce que c'était mais des choses à retrouver. Je pense que Lina doit avoir quelques... Ah oui, ça sera retrouvé, ça, parce que c'était trop impressionnant, quoi. C'était au moment de la haute couture, je sais pas, une semaine après, peut-être tous les défilés, et un spécial haute couture où il y avait les mannequins qui ne disaient pas un mot, une musique... Jean-Pierre Henry et tout blanc avec les mannequins habillés en blanc par Courrèges. C'était impressionnant. Elle ne bougeait pas, elle restait comme ça, très statique et tout. C'était magnifique. Donc, je trouvais ça extraordinaire. Après, j'ai vu les Dim Dam Dom, évidemment. Mais ça, déjà, c'était ancré dans ma mémoire et je trouvais ça très beau. Et donc, peu à peu, alors je lisais donc dans le Jardin des Modes, Madame, ça c'est ce que la proposition du couturier, etc. Mais vous pouvez le porter de telle et telle façon. Donc, je voyais qu'on pouvait porter autrement. Et par la suite, j'ai vu qu'après, quelquefois, quand on portait, quand on mélangeait avec d'autres vêtements, c'était encore mieux. C'est-à-dire que quelquefois, la tenue complète, le tailleur impeccable, d'accord, ok, on connaît, mais voilà, mais que c'était plus intéressant. Et par exemple, Saint-Laurent déjà le faisait. Le smoking noir avec la blouse de mousseline transparente. Le côté mousseline transparente et la veste qui est plutôt masculine, on va dire. Donc ça, pour femme, je trouvais ça très fort et ah, je trouvais ça époustouflant et vraiment tout ce que j'aimais, c'est-à-dire une espèce de mélange que déjà, là, lui faisait de féminin-masculin qui après, mais resté, puisque ça fait partie un peu de mes bases. C'est que moi, j'étais accentué après. Et puis après, j'ai fait l'inverse pour les hommes. C'est-à-dire que j'ai fait l'homme-objet, c'est ça, en fin de compte. J'ai fait l'inverse, c'est-à-dire que j'ai montré que l'homme aussi pouvait être séduisant et emprunter, entre guillemets, certaines choses qui étaient plutôt des matières de femmes et des choses comme ça, une espèce de glamour et tout qui était seulement réservé aux femmes.
Pour revenir sur ce film, Falbala, qui a été pour vous très important, ouais. Avec Micheline Prel, qui est une figure. En fait, c'est votre première... amour de mannequin
Ah oui, ça a été un premier amour global. Ouais. C'est-à-dire qu'elle faisait partie de tout. C'était, si vous voulez, le film, quand j'ai vu Falbala, j'étais passionné, je me souviens plus exactement, je devais avoir 13 ans, je pense, c'est alentour 12-13 ans. Hein. Et j'ai vu ce film et j'ai su que je voulais faire ce métier-là, je voulais faire comme lui, comme le monsieur qui était là. Avec tout, c'est-à-dire avec les essayages, le défilé avant tout. Parce que c'était évidemment vu au travers un film. Donc, il montrait le défilé. Il montrait pas le vêtement sur scène, que je trouve épouvantable. Comme ça, sur scène, pour moi, c'est une nature morte, vous voyez. Et encore, pas une jolie nature morte, parce qu'elle n'est pas mise en valeur, vous voyez. Donc, pour moi, c'était rien. Alors que là, d'un seul coup, il y avait le côté cinéma. C'est-à-dire, mon habitude aussi visuelle de voir la télévision et de voir des anciens films que j'adorais, Les Enfants du Paradis, etc., Goupil les mains rouges, enfin, des films d'une autre époque, de toutes les époques. Et celui-là, ça a été déterminant parce que ça montrait comme un rêve et un métier où on montrait le rêve. Donc, le défilé, pour moi, c'était ça, faire de la mode. C'était faire un défilé. Pour moi, s'il n'y avait pas eu le défilé, peut-être j'aurais pas fait de mode. J'aurais fait des costumes de théâtre ou des costumes de cinéma. Mais là, la mode, c'est parce que j'ai vu le défilé. J'ai vu donc Micheline Prel, cette histoire d'amour qui était d'ailleurs mélodramatique. Ça termine et commence par une espèce de suicide, quoi, une folie qui mène à passer par-dessus le balcon, quoi. Donc c'est vraiment cette histoire d'amour très belle et très émouvante. Et que j'ai vu et revu. À l'époque, il n'y avait pas de vidéo où on pouvait revoir, mais je l'ai vu suffisamment et tellement été fasciné que ça m'est resté gravé à tout jamais. Après, j'ai revu plein de fois. Mais je dois dire que là, j'ai appris, j'ai vu ce que c'était qu'une maison de couture et je l'ai vécu après, quand je suis rentré chez Patou. C'était comme Falbala. C'était comme Falbala. J'ai vu les premières d'ateliers, j'ai vu... En plus, ça a été fait incroyablement bien. Après, j'ai su, par la suite, parce que j'ai eu l'immense chance de connaître après Micheline Prel, qui était donc mon héros. Parce que ce que je voyais quand je voyais Micheline Prel, c'était Micheline Prel qui arrivait, projecteur sur elle, avec le projecteur qui donne de la lumière. Donc elle était féerique et comme inaccessible, féerique et en même temps merveilleuse et glamoureuse et tout ce qu'on peut rêver. Donc c'était l'exemple même. Et je voyais la muse, elle qui l'inspirait par exemple dans l'histoire. On le voit lui, qui n'a pas d'inspiration, qui est sans inspiration. Ah là là, comment on va se faire la collection, disent les gens qui sont alentour de lui. Et puis d'un seul coup, il la rencontre Et c'est elle est censée épouser son meilleur ami qui a une fabrique qui est un soyeux lyonnais, c'est Jean Chevrier, je crois, qui était très élégant et tout, et qui donc elle doit se marier avec lui. Et en fin de compte, le mariage va être rompu parce qu'il tombe amoureux. Enfin, au début, il n'est pas amoureux d'elle, il la prend comme une passade, en fin de compte. Mais après, il est obsédé par elle et en fin de compte, il va faire toute sa collection en pensant à elle et notamment la robe de mariée. Et puis c'est le drame qu'on connaît. Mais quand je voyais donc les personnes regarder le défilé, je sais, c'est ça que je veux faire, c'est-à-dire faire un spectacle en fin de compte. Vous voyez, il y a cette notion de film, de spectacle qui est là, parce qu'il y a le défilé, les gens qui regardent et qui applaudissent, comme moi, quand ma grand-mère m'a emmené au Châtelet pour la première fois, elle m'a emmené voir une comédie, une opérette, pas une comédie musicale, une opérette qui s'appelait La Rose de Noël avec André Dassary. Et à un moment, alors déjà rentré au théâtre, rentré au Châtelet, arrivé, il y a ça aussi comme élément, il y a le Châtelet qui est quand même très important.
Avec cette scène à l'italienne.
Avec les rideaux en velours et l'odeur de poudre de riz et tout qui était imprégné par les personnes, par les vieilles dames qui y étaient, parce que c'était surtout des dames d'un certain âge qui y allaient avec leurs petits-enfants, quelquefois seuls, quelquefois avec leur mari, mais c'était plus rare. Et donc, ou des familles, quelquefois, qui y allaient. Donc, l'opérette, c'était beau et c'était magique. À un moment, il y avait cette scène incroyable. D'ailleurs, j'ai retenu que cette scène-là. Et la chanson, la rose de Noël qui descendra du ciel, l'éclat d'une rose jusqu'au ciel, la rose de Noël. Bon, les paroles n'étaient pas florissantes, enfin je m'en souviens, comme quoi les choses les plus simples peuvent très bien rester et tout. Mais c'était parce qu'il y avait le visuel aussi. Et dans le visuel, il y avait un moment, il est dans son lit et le lit s'élève vers le ciel.
Ouais.
C'était extraordinaire. Donc là, c'était un peu comme mon apparition, si vous voulez, des filles des Folies Bergères qui, elles, descendaient. Là, ça montait, c'était le lit qui montait vers le ciel. Donc c'était tout ce rêve-là, en fin de compte. C'est pour ça que j'aime bien les films en général qui sont avec magique, un peu comme Terry Gilliam qui a fait Brasil, des films un peu extravagants, ou le Baron de Münchenhausen avec...
toute votre mémoire, elle est visuelle. Hein,
elle est visuelle et elle est... Voilà.
On m'a dit, quelqu'un m'a dit, pour finir, avant qu'on se quitte pour ce soir, que quand vous regardiez, vous avez beaucoup regardé Falbala, mais quand vous regardez, parfois les larmes arrivaient, mais... C'est vrai ? Ça vous fait pleurer ?
Ah oui, ça me faisait pleurer. Bah oui, c'était triste comme histoire, ça me faisait vraiment pleurer. Mais c'est... Je sais pas sur quoi, en fin de compte, exactement, je crois, si la fin qui est triste... Si, je sais tout à fait quel est le moment, évidemment. C'est le moment où, d'un seul coup, il devient fou, quoi. Fou d'amour, quoi. C'est-à-dire que, d'un seul coup, c'est pas possible. C'est ça, c'est ce truc-là que je trouve dramatique, quoi. Le fait qu'en quelquefois, quelque chose devrait se faire, que tout pourra aller pour le mieux et ça ne va pas pour le mieux, ça, c'est déchirant. Pour moi, c'est quelque chose que je supporte pas.
Pourquoi ça vous touche comme ça?
Je sais pas, peut-être... Les gens qui s'en vont, qui meurent et tout, vous voyez, tout ça, c'est un peu ça, comme une mort et tout, où le destin fait que ça pourrait être une espèce d'injustice comme ça et tout. Voilà.
On va se quitter sur ces très jolies paroles pour ce soir. On se retrouve demain.
Avec plaisir.
À la même heure ?
À la même heure, exactement.
D'accord.
Je serai là.
Bon, bonsoir et merci d'être à l'écoute de France Culture.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Leila Djitli avec Jean-Paul Gaultier. À voix nue, réalisation Clémence Grosse, prise de son Mathieu Perrault, Raymond Albouy, documentation Anne-Lise Signoret, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.